On va commencer par prier, si vous voulez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que nous allons vers la solennité de l'Ascension de la Pentecôte, confions-nous à la Vierge Marie, pleine de l'Esprit-Saint, pleine de grâce. Elle est la patronne de notre paroisse. Nous lui confions nos personnes, nos familles, notre pays. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ose à peine présenter notre conférencier de ce soir. Je pense que la quasi-totalité d'entre vous le connaissent, soit à titre personnel, soit parce qu'il est déjà venu ici un certain nombre de fois, nous traiter de diverses conférences, entre autres déjà sur des thèmes concernant la Vierge Marie. Ce soir, il va nous parler de Fatima. Vous avez vu le titre de la conférence, Fatima, les événements, le message, l'impact. Nous venons de fêter le centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima. Nous avons souligné ici le 13 mai, voilà, les 100 ans, cette fête, entre autres par la projection du film « Le 13e jour ». Fatima, c'est un nom qui est bien connu, c'est une dévotion à la Vierge Marie extrêmement répandue, c'est aussi un message et des apparitions qui ont fait couler beaucoup d'encre, on a dit beaucoup, beaucoup de choses, on continue d'en dire beaucoup, beaucoup. Donc le père de Mantière va essayer de nous dresser un petit peu le contenu, le message, les événements de Fatima. Il ne faut pas se laisser impressionner par tous les livres qu'il a sur la table, pas du tout, du tout. Et je tiens tout de suite à le remercier grandement, très grandement, de sa disponibilité. Voilà, il est curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, il est responsable de la vie religieuse féminine sur l'ensemble du diocèse de Paris. Il est professeur au Bernardin. Voilà, il y a beaucoup de cordes à son arc, beaucoup de fonctions. Voilà, il est donc très pris. Et quand je lui ai posé la demande pour une conférence ici à Notre-Dame de Nazareth, et en plus dans le contexte du mois de mai, centenaire des apparitions, il est un spécialiste de mariologie, je me dis bon, jamais il va avoir le temps. Bon, voilà. Et puis il m'a renvoyé un petit mail très gentil en me disant: oh cher Gilles, moi, je ne peux rien te refuser. Voilà. Ça m'a beaucoup touché. Alors merci de ne pas m'avoir refusé cette invitation. Et puis c'est avec plaisir que nous allons t'écouter.
Merci beaucoup. Ce petit mail laisse supposer qu'à certains, je refuse. Mais que, comme j'ai toujours été très bien accueilli ici par le Père Morin et par les paroissiens de Notre-Dame de Nazareth, eh bien, je reviens avec joie. Si tu veux parler avec le micro d'appui, là. Très bien. Alors voilà. Donc, d'abord, pour vous dire que je ne suis pas un fatimologue. Il y a des fatimologues, portugais essentiellement, évidemment. Moi, je suis un pauvre prêtre du diocèse de Paris, voilà, qui est un peu travaillé et enseigné sur la Sainte Vierge, mais pas de manière spécifique, évidemment, sur Notre-Dame de Fatima. Cependant, on m'avait demandé en janvier dernier une conférence pour les recteurs de sanctuaires et pour l'association des œuvres mariales, et cette conférence avait lieu d'ailleurs à Fatima, ce qui m'a permis d'aller une nouvelle fois à Fatima, bon, et surtout qui m'a permis ou qui m'a obligé à travailler sérieusement le sujet. Et les bras m'en sont tombés parce que c'est extrêmement compliqué. Je savais que c'était compliqué, mais je ne savais pas à quel point ça l'était. Fatima. Alors, on va essayer de débroussailler un petit peu ces nœuds de complexité et de perplexité. Alors, je dois dire d'ailleurs que depuis le mois de janvier, chaque semaine paraît un livre nouveau sur Fatima, quasiment. Donc, j'ai apporté ça. Tout ça, c'est paru en mois de mai. Ça, c'est paru au mois de mai. Ça, c'est paru au mois de mai. Ça, c'est paru un petit peu avant. Ça, c'est paru au mois de mai. Voilà. Alors, j'essaye de lire ça, mais évidemment, c'est difficile de se tenir au courant et tous font part de révélations nouvelles, naturellement. Donc, c'est assez compliqué. Bon, alors, compliqué pourquoi ? Vous avez les feuilles sous les yeux. D'abord, il faut essayer de dire un petit mot de cette complexité. Vous le savez, à Fatima, vous avez peut-être, on connaît mieux Lourdes en France quand même. Alors Lourdes, on sait, bon, la Sainte Vierge, elle est apparue à Massabielle, dans le rocher, voilà, il y a une seule voyante, c'est relativement simple. À Fatima, il y a plusieurs lieux d'apparition. Rien qu'à Fatima, il y a au moins quatre lieux d'apparition différents. Bon. Il y a évidemment plusieurs voyants. Non seulement les trois petits enfants qu'on connaît bien, Lucie, Francisco, Jacinta, bon, mais aussi d'autres voyants, dont on parle moins, mais qui ont vu des choses, pas forcément la Sainte Vierge d'ailleurs. Bon, très compliqué. Il y a plusieurs statues des voyants, même parmi les trois petits-enfants que je viens de citer. Vous le savez, Lucie voit, entend et parle à la Sainte Vierge. Jacinta voit et entend la Sainte Vierge. Et Francisco voit la Sainte Vierge, mais ne l'entend pas et ne lui parle pas. Voilà. Donc déjà, ils ont trois statuts différents. C'est compliqué, ça. Et d'ailleurs, c'est un signe d'humilité du petit Francisco qui ne s'est jamais plaint auprès de sa petite sœur ou de sa cousine de ce qu'il n'entendait rien du tout. Pourquoi lui n'entend pas ? On ne sait pas. Non. Il y a plusieurs personnes qui apparaissent. On parle bien sûr des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Mais il y a aussi Saint-Joseph qui est apparu à Fatima. Mais il y a aussi l'enfant Jésus qui est apparu à Fatima. Mais il y a aussi les anges qui sont apparus à Fatima. Et encore, si on prend simplement Notre-Dame, elle n'apparaît pas simplement sous un trait, mais sous le trait de Notre-Dame du Rosaire, puis de Notre-Dame du Carmel, puis de Notre-Dame des Douleurs. Donc, voilà, compliqué tout ça. Il y a eu des apparitions avant et après les apparitions, car nous allons parler de ce que j'appelle, à la suite du théologien belge Édouard Danis, ce que j'appelle Fatima 1, mais après 1917, il y a eu d'autres apparitions, pratiquement jusqu'en 2005, jusqu'à la mort de Sœur Lucie. Sœur Lucie a été tout au long de sa vie de religieuse gratifiée d'un certain nombre d'apparitions. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Jacinta, elle-même, qui est morte pourtant en 1920, donc très peu de temps après les apparitions, a été gratifiée dans son agonie, sur son lit d'hôpital, de différentes apparitions de la Vierge Marie. On a tout lieu de croire que Francisco aussi, au moment de mourir, a bénéficié d'une apparition de la Vierge. Donc il y a eu des apparitions après les apparitions. Donc, ça rend complexe les choses. Bon. Complexité des événements, complexité du message aussi. À Fatima, d'une manière très difficile à comprendre pour nos petits esprits français et cartésiens, se mêlent le religieux, le politique, le social, le mystique, le cosmologique. Fatima, c'est à la fois des signes dans le ciel, des effets de soleil qui dansent, des aurores boréales, des toutes sortes de phénomènes cosmiques, mais aussi des jeux enfantins, ces petits-enfants qui sont des vrais petits-enfants, qui aiment jouer, qui dansent, qui jouent à la marelle, qui... Et en même temps, ça a une répercussion politique majeure. sur le Portugal. On sait bien que ça va influer, ces apparitions de Fatima, fortement sur le régime politique du Portugal, et que ça aura un impact même sur l'Empire soviétique, mystérieusement, sur la chute du communisme via, évidemment, l'intervention du pape Jean-Paul II. Bon. Donc c'est très, très intriguant pour nous de voir que des petits-enfants qui jouent à la marelle, eh bien, peuvent avoir à la fois une influence sur les astres, si je puis dire, hein, sur les éléments du monde, sur les éléments cosmiques, mais aussi sur le cours de l'histoire humaine. Voilà. Nous, en bon français, on partage. Si c'est religieux, alors c'est pas politique. Ben si, c'est à la fois éminemment religieux, Fatima, et éminemment politique. Voilà. Et tout ça est imbriqué d'une manière très difficile à démêler et à comprendre. Voilà. Alors, venons-en aux événements. Vous avez sur la feuille, j'ai distingué Fatima 1 et Fatima 2. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, nous allons nous arrêter dans un premier temps à Fatima 1, c'est-à-dire les 6 apparitions de Notre-Dame au cours de l'année 1917. Quand on parle de Fatima, c'est d'abord à cela qu'on pense. La Vierge Marie est apparue à 6 reprises, le 13 de chaque mois, depuis mai 1917, 13 mai 1917, jusqu'au 13 octobre 1917. Ce sont ces apparitions qui ont été reconnues plus tard, nous allons le voir, par l'évêque de Léra, donc qui jouissent d'une reconnaissance canonique, et c'est le premier Fatima, c'est ça qu'on a d'abord connu. Alors décrivons très rapidement ces apparitions. Donc nous avons affaire à des familles d'un hameau qui s'appelle Ajustrel, qui est un petit hameau proche de la paroisse de Fatima, et ses enfants sont Lucie, d'une part, l'aînée. Elle a 10 ans, elle n'est pas vieille, hein. Et puis son petit cousin qui s'appelle Francisco, qui a 9 ans, et la sœur du petit Francisco, qui est donc aussi la cousine de Lucie, qui s'appelle Jacinta et qui a 7 ans. Il joue le dimanche 13 mai, il joue agréablement à construire un petit muret de pierre autour de racines d'arbres, et voici que, eh bien, il y a un éclair, ils sont attirés, ils veulent rentrer les troupeaux par peur de l'orage, et voici que, plus brillante que le soleil, une dame, toute vêtue de blanc, leur apparaît. Elle est traversée par les rayons du soleil le plus ardent. Et un dialogue va s'engager avec Lucie, la seule des voyantes qui parle à la Vierge Marie, et ce dialogue va conduire Notre-Dame à dire « Je vous demande de venir ici 6 mois de suite, le 13 à cette même heure, il était environ midi, et je vous dirai par la suite ce que je veux, puis je reviendrai encore ici une 7e fois. » Donc alors, vous voyez, c'est compliqué déjà dès le début, parce que la Vierge Marie dit « Elle va apparaître 6 fois, et puis une 7e fois. » Bon, nous verrons cette 7e fois par la suite. Bon, elle prévient, dès la première apparition, la Sainte Vierge prévient les petits-enfants, vous aurez beaucoup à souffrir. Déjà, la tonalité est mise, nous allons voir que les apparitions de Fatima et tous les événements de Fatima baignent dans un climat que nous qualifierions volontiers et rapidement, nous, de janséniste, en tout cas, qui nous déroute certainement parce que l'accent est mis sur la mortification, l'ascèse, la souffrance, les sacrifices offerts pour les pécheurs, nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, ces petits-enfants sont évidemment dans un état de bonheur intense, ils décrivent de manière très belle le bonheur qu'ils ressentaient, ils ont touché au ciel pendant un petit moment, hein, et ils prennent surtout la ferme résolution, tous les trois, de ne rien dire, hein, parce que c'est incommunicable d'abord, et puis parce qu'on va les prendre pour des fous. Mais la petite Jacinta n'a quand même que 7 ans et évidemment elle va être amenée à révéler et à commencer à parler de cette apparition. Et dès lors, tout va s'enchaîner assez vite. La Sainte Vierge leur a dit, j'ai oublié de ce détail, mais c'est un détail très important puisqu'il va revenir à chacune des 6 apparitions, la Sainte Vierge les a quittés en disant « Priez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Nous sommes en 1917, c'est évidemment la Première Guerre mondiale. Le Portugal vient de rentrer en guerre. Depuis 1916, le Portugal est entré en guerre. Et depuis 7 ans, depuis 1910, le Portugal connaît un régime politique très violemment anticlérical. Même le petit père Combes en France est peu de choses à côté du régime de la République du Portugal en ces années-là. Des vraies persécutions religieuses ont lieu. Le patriarche de Lisbonne lui-même, le cardinal patriarche de Lisbonne, est en exil. Il n'y a pas d'évêque à Leyra. Les relations diplomatiques sont coupées avec le Saint-Siège. Et toutes sortes de brimades sont faites aux religieux qui ont été expulsés, comme en France dans ces années-là. Les religieux ont été expulsés. Et le clergé connaît toutes sortes de brimades de la part du pouvoir politique. C'est important parce que ça va jouer un rôle aussi par la suite. Donc, la petite Jacinta parle à ses parents. Évidemment, le bruit dans ce petit hameau de l'Aljustrel, où il y a à peu près 200 habitants, va se répandre. Il y a un peu plus d'habitants à Fatima, mais guère plus. Tout ça est un mouchoir de poche, donc tout ça se sait. On se moque de ces tout-petits. On dit, voilà, ils sont petits, ils ont... voilà. La maman de Lucie ne va jamais accepter de croire. Elle va être d'une hostilité farouche et presque jusqu'au bout aux apparitions. Elle va traiter sa fille de menteuse, elle va la battre, elle va l'enfermer, elle va lui faire connaître toutes sortes de choses très désagréables. La réaction des parents de Jacinta et de Francisco, Manuel et Olympia Marteau, est différente. Pour une raison que j'ai rappelée d'ailleurs dimanche dernier à mes paroissiens au cours de l'homélie, vous savez, je me sers aussi de ce que j'enseigne pour combler mes homélies, puis je me sers des homélies pour combler mon enseignement, c'est comme ça. C'est comme vous avec votre dîner de la veille, vous le récupérez pour le repas du lendemain, c'est pareil. Et donc, Jacinta Marteau et Francisco Marteau reçoivent plutôt un accueil bienveillant de leurs parents parce que le papa, Manuel Marteau, dit « Mes enfants ne mentent pas. » Il les a éduqués dans l'horreur du mensonge. J'ai rappelé ça dimanche dernier à propos de ce que disait Jésus sur le paraclet qu'il nous donnera et qui sera l'esprit de vérité. Qu'est-ce qu'on a besoin de l'esprit de vérité à notre époque ? Le mensonge, c'est insupportable. Alors là, nous avons un père et une mère de famille, Manuel et Olympia Marteau, qui ont éduqué leurs enfants dans l'horreur du mensonge. Et on voit ça à de multiples détails. D'ailleurs, quand Jacinta et Emmanuel rencontrent le troubadour du village, ils aiment bien l'écouter raconter des histoires. Mais ils lui disent, mais tu nous dis des histoires vraies, pas des mensonges. Voilà. Ils ne supportent pas le mensonge. Et de fait, ces petits-enfants, qui sont canonisés maintenant, vous le savez, depuis dimanche dernier, ces petits-enfants sont d'une ingénuité merveilleuse et ils sont insoupçonnables, irréfutables. Je veux dire, s'il y a bien une cause de crédibilité absolue de ces apparitions de Fatima, c'est les petits-enfants Marteau. Ils sont au-dessus de tout soupçon. Comme souvent, comme à Pontmain, comme à Lourdes pour Bernadette, ce sont vraiment des enfants... qui sont insoupçonnables, qui ne peuvent pas mentir. Voilà. Alors, donc ça va un peu se savoir, se répandre, et puis par curiosité, eh bien le 13 juin 1917, donc deuxième apparition, il y a déjà une cinquantaine de personnes du hameau, du village, qui sont là, qui disent, on va voir, puisqu'ils disent qu'ils voient la Sainte Vierge, donc ils se mettent. J'ai oublié de dire que la Sainte Vierge apparaît dans une cuvette qu'on appelle la cova d'Airia, c'est-à-dire une sorte de petite dépression, et elle apparaît sur un arbre, sur un petit chêne vert à environ un mètre de hauteur, et que les enfants, quand la Vierge apparaît, sont tout près d'elle. À Lourdes, vous connaissez bien à Lourdes, Bernadette est quand même assez loin du rocher de Massabielle. Elle voit là-haut la Sainte Vierge, la belle dame, comme elle dit, tandis que les enfants de Fatima sont pris dans le halo de lumière de la belle dame. Ils sont à un mètre d'elle, donc ils sont presque pris dans cette lumière intense qu'ils voient et qui les baigne. Voilà. Alors, donc il y a une cinquantaine de personnes qui attestent qu'au moment où la Sainte Vierge va apparaître, donc le 13 juin 1917 à midi, il y a une sorte d'éclair, et puis le petit arbre semble pencher sous le poids, comme si la Vierge mettait les pieds sur le petit arbre qui penche sous le poids. Donc évidemment, ils ne voient pas la Vierge, les 50 personnes, mais ils voient l'arbre pencher, ils voient l'éclair, ils voient le rafraîchissement de l'atmosphère, ils perçoivent un certain nombre de signes de cet ordre-là. La Sainte Vierge apparaît à nouveau, elle parle aux enfants, elle leur demande « Je veux que vous appreniez à lire ». Et puis, elle dit que Jacinthe et François iront bientôt la rejoindre au ciel. Mais Lucie, elle, devra rester plus longtemps sur la terre parce que le Seigneur veut se servir de Lucie pour établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Voilà un des grands thèmes de Fatima qui apparaît, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et elle dit à Lucie, tu auras beaucoup à souffrir, mais ne t'inquiète pas, mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira vers Dieu. C'est la devise que, pour le centenaire, le recteur a choisi. Donc partout on voit cette phrase qui apparaît sur tous les documents du centenaire de Fatima. Il a choisi cette phrase, « Mon cœur immaculé sera ton refuge qui te conduira jusqu'à Dieu ». Voilà. Et puis, lors de cette apparition, 13 juin 1917, les enfants voient un cœur entouré d'épines. Et ils ont compris, bien sûr, que c'était le cœur immaculé de Marie, offensé par les péchés des hommes. Bon, 13 juin, évidemment, ça finit par se savoir. Les 40 ou 50 personnes qui étaient là commencent à dire « Ben oui, il y a quand même des choses étonnantes ». Et donc, le 13 juillet, vous ne vous entendrez pas, il y a déjà un peu plus de monde qui est là. Quelques centaines de personnes sont là. Ils voient un petit nuage au moment de l'apparition, le 13 juillet 1907, à midi toujours, un petit nuage qui semble se déplacer, puis venir sur le chêne vert. Et à nouveau, c'est l'apparition qui a lieu. Et la conversation s'engage entre Lucie et Notre-Dame. Et Notre-Dame lui dit, n'oubliez pas de réciter tous les jours le chapelet. Ça, c'est ce qui va être dit à toutes les apparitions. Toutes les apparitions, c'est le chapelet, c'est tous les jours. Ça, c'est pas négociable. Le reste, on peut voir. Mais le chapelet, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, il faut vous dire que ces enfants sont des vrais enfants. C'est-à-dire que ils sont joueurs, ils sont espiègles, ils sont voire boudeurs ou colériques pour la petite Jacinta. En tout cas, Francisco a très bon caractère, mais Jacinta, la petite dernière, elle n'est pas commode du tout. Ils sont tous les deux dans des familles de 7 enfants. Lucie, les Dos Santos, il y a 7 enfants dans la famille, et du côté Marteau, il y a 7 enfants aussi. Tous ces enfants qui mourront d'ailleurs plus ou moins en bas âge. Bon, enfin bref, la mortalité infantile est importante. Donc ils sont joueurs et évidemment ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller jouer dans les collines, garder les moutons, ça les ennuie. Donc dès qu'ils peuvent jouer, ils jouent. Et pour jouer, pour être sûr de jouer plus longtemps, ils ont inventé ce stratagème. Sur chaque grain de leur chapelet, au lieu de dire tout l'Ave Maria, ils disent juste Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Évidemment, ils ont terminé très vite leur chapelet, de sorte qu'ils peuvent jouer davantage. Mais la Vierge Marie les a rattrapés au tournant en leur disant, attention, le vrai chapelet, hein, et le chapelet tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est pas négociable. Oui, on parlera tout à l'heure du chapelet encore, voilà. Donc, le chapelet tous les jours, « Je suis Notre-Dame du Rosaire », dit la Vierge Marie, le 13 juillet, elle se nomme, je suis Notre-Dame du Rosaire, et dites le chapelet pour obtenir la paix dans le monde. Voilà. En octobre, annonce Notre-Dame, je dirai qui je suis et ce que je veux, et je ferai un miracle que tout le monde verra, afin que tout le monde puisse croire. Alors ça, c'est terrifiant, parce qu'à partir de ce moment-là, la Sainte Vierge annonce qu'elle fera un miracle qui sera au vu et au su de tous et qui pourra faire venir à la fois même les plus récalcitrants. Bon. Et puis toujours, sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, ô Jésus, c'est pour l'amour de vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie que je vous offre tous ces sacrifices. Quatrième apparition, elle aurait dû avoir lieu le 13 août, puisque c'est tous les 13 du mois. Mais les autorités de la ville voisine, de la préfecture voisine, Villa de Hurrem, ont commencé à prendre ombrage des événements de Fatima. Je vous l'ai dit, il y a déjà plusieurs centaines de personnes, voire on attend des milliers de personnes pour le 13 août à Fatima. Cela fait beaucoup de remue-ménage. Les autorités franc-maçonnes, libertaires, commencent à dire « mais c'est une manigance des jésuites, c'est la réaction cléricale qui a manigancé toutes ces histoires ». Et donc, on ordonne au préfet de Villa de Hurrem, ce qu'on appelle l'administrateur, eh bien, de mettre fin à ces désordres. Et pour mettre fin à ces désordres, Antonio de Oliveira Santos ne trouve pas mieux que de faire enlever, de kidnapper carrément, les trois petits voyants. Alors il vient le jour dit, et puis il demande à voir les petits voyants. Il dit « Je vais vous emmener dans ma voiture jusqu'à chez le curé ». Le curé qui, depuis le début, n'a montré aucune bienveillance à l'égard de ces apparitions, hein, vraiment une prudence extrême, mais plus que ça, même une grande réserve vis-à-vis de ces apparitions. Donc il dit « Je vais vous emmener voir le curé ». Et en fait, de les emmener voir le curé, il les emmène à la préfecture et il les enferme dans un cachot. Là, il y a des scènes merveilleuses que je crois on voit dans le film Le 13e jour, si mes souvenirs sont bons, hein, où tous ces petits enfants insinuent un climat de grâce au milieu de ces bandits de grand chemin, de ces soudards, de ces gros gaillards. Eh bien, ils sont touchés par la grâce enfantine et ils arrivent à faire prier. Hein, et même quand il y a un gaillard, un bandit qui se met à genoux et Francisco remarque qu'il n'a pas enlevé son bonnet, il lui dit « on prie la tête découverte ». Et puis le gars, il s'exécute, hein, il enlève son bonnet et puis il se met à prier. Bon, climat de grâce étonnant. Les geôliers, les gardiens viennent, ils passent la tête, ils voient ça, ils se disent « mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, ils sont touchés aussi de cette espèce de bienveillance, de climat de piété que répandent ces enfants par leur seule présence. Et puis ils se mettent à danser dans la prison parce que la petite Jacinta aime beaucoup la danse, le fado, le fandango. Hein, voilà, on dit que le Portugal, c'est les trois F, hein, fado, football, Fatima, c'est le Portugal. Peut-être des Portugais ici, hein, c'est les trois F du Portugal. Ben, voilà, touché. Et puis, évidemment, l'administrateur fait venir ces trois petits-enfants et leur dit « Dites que c'est des mensonges que vous dites, avouez que vous n'avez rien vu et vous aurez la vie sauve, sinon je prépare une marmite bouillante d'huile et je vous ferai cuire centimètre par centimètre. » Évidemment, les petits-enfants ne se rétractent absolument pas, alors on dit « Eh bien, la plus jeune, on commence, Jacinta est emmenée pour être ébouillantée. » Le petit Francisco... on lui dit « Alors, ça ne te fait rien que ta sœur soit ébouillantée, et puis toi, ça va être ton tour bientôt. Tant mieux, j'irai plus vite au ciel. » Déjà, comme réponse, c'est étonnant. Donc, il ne cède pas. Il est emmené à son tour, le petit Francisco, et puis c'est le tour de Lucie, qui évidemment ne cède pas non plus, et qui croit que ses deux petits cousins viennent d'être mis à mort, hein, parce que le gardien rentre en disant « Ça y est hein, !» Voilà, donc elle va être à son tour mise à mort, mais évidemment, Dieu merci, c'était une fiction, un subterfuge, et les trois petits-enfants, à cause même de leur persévérance, eh bien, sont relâchés. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas là au moment où la Sainte Vierge est apparue, le 13 août 1917. Il y avait une foule considérable qui était là et qui attendait les enfants, qui disait ben, « mais où est-ce qu'ils sont les enfants ?» On ne savait pas qu'ils avaient été kidnappés. Et les gens, à midi, vont voir l'éclair habituel, le petit nuage qui se déplace, le petit chêne vert qui se courbe, tout comme si la Sainte Vierge était venue. Et puis, elle est repartie. Elle a vu que les enfants n'étaient pas là, donc elle est repartie. Bon. Mais les gens sont furieux. Ils ne savent pas où sont les enfants. Bon. Et ils vont apprendre, bien sûr, qu'ils ont été kidnappés. Alors là, ça va donner encore plus d'écho, évidemment, aux apparitions de Fatima, parce qu'un grand nombre de gens vont prendre parti pour ces petits-enfants contre les autorités de la République qui sont violentes et anticléricales, et on ne fait pas ça, évidemment, à des enfants de cet âge-là. Bon. Alors, pour se rattraper, si j'ose dire, la Sainte Vierge va apparaître quelques jours plus tard, le dimanche 19 août 1917, dans un autre lieu. Pour l'instant, elle est apparue les trois premières fois à la Cova d'Airia, sur le petit chêne vert, mais là, les enfants sont en train de jouer auprès d'une grotte et dans un champ qui est pas très loin d'Aljustrel, pas très loin de chez eux, alors que la Cova d'Airia, c'est quand même 2 kilomètres, hein, 2,5 kilomètres de leur maison. Hein. Là, ils sont pas très loin de chez eux, dans un champ, et au Valignos, qu'on appelle le Valignos, la Vierge va apparaître. Alors Lucie est là, elle est avec un de ses cousins qui s'appelle Jean, le frère de Francisco et de Jacinta, et puis elle aperçoit qu'il y a l'éclair, qu'il y a le vent, comme d'habitude, elle dit à Jean, va vite chercher Francisco et Jacinta, la Sainte Vierge va arriver. Francisco et Jacinta arrivent à toutes jambes, hein, et effectivement, le 19 août, la Vierge apparaît, et la conversation s'engage, comme d'habitude, sauf que ce n'est pas au même endroit, c'est un autre endroit d'apparition. Lucie lui pose un certain nombre de questions, comme à chaque fois, elle va lui dire « Mais on m'a demandé de guérir telle personne. » À chaque fois, la Sainte Vierge dirait « Elle guérira si elle se convertit. » Et puis, elle va demander « Mais alors, on nous apporte des tas de cadeaux, des tas d'offrandes, qu'est-ce qu'on doit en faire de tout cet argent ?» La Sainte Vierge va répondre « Faites-en 2 brancards, hein, l'un pour les filles, l'un pour les garçons, que vous porterez lors de la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et puis, ce que vous avez en surplus, ça servira pour bâtir une chapelle sur le lieu des apparitions. Bon. » Voilà, donc apparition très particulière, puisque là, il n'y avait pas de public. Il n'y avait que les 3 voyants, le 19 août. Et puis Jean, le frère de Francisco et de Jacinta, qui a témoigné, effectivement, qu'il avait vu, qu'il avait entendu, enfin, qu'il avait vu l'éclair, entendu un coup de tonnerre, voilà, et puis, mais qu'il n'a pas vu la Sainte Vierge, évidemment. Voilà, nous avançons, oui, c'est compliqué, mais on avance petit à petit. Hein. 5e apparition, le 13 septembre 1917. Comme les autres fois, une série de phénomènes atmosphériques annoncent l'apparition, et cette fois, compte tenu des événements du mois d'août, ça n'est pas 100, 200, 300 ou quelques milliers, c'est 15 000 personnes qui sont là, hein, sur la Cova d'Airia. Ce qui pose d'ailleurs problème, parce que la Cova d'Airia est un champ qui appartient au père de Lucie, Antonio dos Santos, et évidemment, il y avait des cultures, c'était le champ de la famille pour faire pousser le maïs, les pommes de terre, que sais-je, et tout est ravagé, évidemment, il n'y a plus rien. Hein. De sorte que la famille de Lucie, qui ne croit pas du tout aux apparitions, dit à Lucie, bah, quand tu voudras manger, t'as qu'à manger ce qui pousse à la Cova d'Airia. Voilà. Donc, nous sommes avec 15 et 20 000 personnes à la Cova d'Airia. La Sainte Vierge apparaît à midi, le 13 septembre 1917, comme d'habitude. Continuez à dire le chapelet, dit-elle aux enfants, pour que la guerre prenne fin. Et elle annonce qu'en octobre, je ne viendrai pas toute seule, il y aura avec moi Saint Joseph et l'enfant Jésus. Bon, voilà. Et puis elle dit aux enfants, Dieu est content de vos sacrifices, continuez, allez-y. Lucie demande qu'on guérisse un certain nombre de personnes, et puis elles disent, ben oui, ils guériront, j'en guérirai certains s'ils se convertissent, mais d'autres je ne les guérirai pas. Et puis en octobre, je ferai un miracle pour que tous croient. Voilà, apparition du 13 septembre. Alors vous pensez bien qu'avec ce miracle tant de fois annoncé par la Sainte Vierge, le 13 octobre est particulièrement attendu. C'est là que tout va jouer. Parce que soit il y a le miracle, et alors c'est gagné, soit il n'y a pas le miracle, et les petits-enfants se font lyncher. Vous imaginez, une foule considérable, déjà le 13 septembre, 15 000 personnes, le 13 octobre, compte tenu de l'annonce du miracle, c'est 70 000 personnes qui sont là. On est venu de tout le pays. On est venu, que l'on soit profondément croyant, convaincu des apparitions, mais on est venu surtout, si on est sûr que c'est une illusion, et tous les anticléricaux sont là. À commencer par les gens du gouvernement, les journalistes qui sont là en disant « bon, ben, c'est gagné, là, comme on est sûr qu'il n'y aura pas de miracle, puisqu'il n'y a jamais de miracle, puisque on sait bien que le miracle n'existe pas. Donc ils sont très sûrs de leur fait, et ils sont tous là, attendant l'échec définitif des voyants de Fatima. Les familles des petits-enfants, que ce soit la famille de Lucie ou même la famille de Marteau, la famille Marteau de Francisco et Jacinta, sont très inquiètes en disant « si le miracle n'a pas lieu, la foule va se retourner contre nous et on ne donne pas cher de notre peau ». De sorte que la maman de Lucie emmène tout le monde se confesser le matin même en disant « comme ça, si on nous tue, au moins on ira au ciel ». Vous voyez le climat, hein ? C'est qui tout double, hein ? Alors, pour ne rien arranger, eh bien, le 13 octobre, il fait un temps de chien. Il pleut toute la journée, toute la minée, toute la nuit, toute la matinée. Il pleut, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Les routes sont dans un état, il n'y a pas de route, évidemment, à cette époque-là, au Portugal. Hein. C'est des chemins, donc c'est boueux, les carrioles versent, on est pris dans la boue, on en a partout, on est trempé comme des soupes et on attend, là, que le miracle s'accomplisse. Les enfants arrivent à midi, le dialogue s'engage exactement comme d'habitude. Notre-Dame dit « Je veux qu'on fasse bâtir une chapelle ici en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Continuez à dire le chapelet tous les jours. La guerre vient bientôt finir et les soldats vont bientôt rentrer chez eux. Bon. » Très bien, voilà, bon, le dialogue continue. Et puis, il va y avoir trois phases d'apparition. Alors là, c'est complexe encore, je vous passe beaucoup de détails, croyez-moi. C'est complexe encore puisque la première phase, les trois enfants vont la voir et les deux phases suivantes, seule Lucie les verra. Première phase d'apparition, les mystères glorieux. C'est Notre-Dame du Rosaire qui apparaît. Les mystères joyeux, c'est Notre-Dame du Rosaire qui apparaît avec Saint-Joseph qui est là et qui bénit la foule et le petit Jésus qui est là et qui bénit la foule aussi. Ils apparaissent tous les trois. C'est la Sainte Famille, c'est les mystères joyeux du Rosaire. Bon. Première phase, ça, les trois enfants voient ça. Puis, il y a une deuxième phase d'apparition où c'est Notre-Dame des Douleurs qui apparaît avec Jésus sur le calvaire. Voilà. Donc, mystère douloureux. Puis, troisième phase d'apparition, c'est cette fois Notre-Dame du Mont Carmel, Notre-Dame du Carmel qui apparaît et qui est couronnée, reine du ciel et de la terre. Ce sont les mystères glorieux. Voilà. Pendant ces trois phases d'apparition, il y a le fameux miracle tant attendu. Parce qu'évidemment, au début, les gens disaient « bon, alors, rien ». Et puis, ils étaient trempés comme ça, 70 000 personnes, vraiment attendant, rien. Tout le monde commençait à dire « vous voyez bien, c'est de la foutaise, c'est pas poli, enfin, vous voyez ce que je veux dire ». Enfin, ils n'y croyaient pas. Et puis, tout à coup, Lucie dit « regardez le soleil ». Alors, les gens se tournent et effectivement, les gens vont pouvoir regarder le soleil, fixer leurs yeux sur le soleil, ce qui est déjà miracle en soi, et ils vont s'apercevoir que ce soleil est pris de soubresauts soudain, se met à zigzaguer en tous sens, se met à danser, tourne comme une roue de feu, et puis ce phénomène va durer 10 minutes. C'est beaucoup, c'est énorme, 10 minutes. Et pendant 10 minutes, le soleil va être pris de toutes sortes de mouvements convulsifs, et puis tout d'un coup, à la fin, se précipiter sur la terre. Comme si une boule de feu qui allait tomber sur eux s'approchait. Tout le monde est persuadé que c'est la fin du monde. Les gens tombent à genoux, se confessent, crient vers Dieu. Voilà, c'est la fin du monde. C'est le cataclysme final. Et puis, bon, le soleil retourne à sa place. Et quand cette danse du soleil est finie, tout le monde est sec. Tout a séché. Le signe a eu lieu. Manifestement, les 70 000 personnes qui étaient là, quelles que soient ses convictions, leurs convictions initiales, vont toutes témoigner, on l'a vu. Et non seulement ces 70 000 personnes, mais même des gens qui étaient à 40 km plus loin ont vu le signe du soleil et en ont témoigné. Donc, le grand signe grandiose qui apparaît dans le ciel s'est produit. Évidemment, là, ça cloue le bec à tous les récalcitrants et à tous les francs-maçons. Il a bien fallu se rendre à l'évidence. Un signe grandiose est apparu dans le ciel ce 13 octobre 1917. Voilà. Alors, par la suite, eh bien, très rapidement, les petits voyants vont, comme la Sainte Vierge l'avait annoncé, quitter ce monde, en tout cas pour Francisco, qui meurt le 4 avril 1919 de la grippe espagnole, cette grippe espagnole qui a fait plus de victimes même que la guerre mondiale. Donc Francisco meurt le 4 avril 1919. En mourant, il voit d'ailleurs une belle lumière, hein, tout lieu de penser que, et il meurt comme un ange, enfin séraphique, on a tout lieu de penser que la Sainte Vierge elle-même est venue le chercher. Et puis, ce sera le tour de Jacinta, très vite, qui mourra seule dans un hôpital à Lisbonne en 1920. Et quand on voudra faire son enterrement, eh bien, des senteurs absolument délicieuses se dégageront de son corps et bah, elle embaume la sainteté. Voilà. Quant à Lucie, elle reste de ce monde, la Sainte Vierge l'avait annoncé aussi. Et on va l'éloigner des importuns, parce que vous pensez bien, si elle est soumise à toutes sortes de questions de la part de toutes sortes de gens, et on va l'éloigner, et au moment de quitter Fatima, le 16 juin 1921, elle va retourner une dernière fois à la Cova d'Airia, et la Vierge va lui apparaître. Souvenez-vous que le 13 mai, la Vierge avait dit « Je vais apparaître 6 fois tous les 13 du mois jusqu'en octobre, et je reviendrai une 7e fois. » La voici, cette 7e fois. Puis elle va rentrer d'abord dans un pensionnat religieux à Porto, puis après elle sera religieuse en Espagne, et tout au long de sa vie, elle va bénéficier, selon ses dires et selon ses mémoires et son journal, de toute une série d'apparitions. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que Fatima restera un événement au plan local. Au Portugal, on a parlé beaucoup de Fatima à cause même de ce signe du soleil. Ce n'est pas très connu dans le reste du monde, mais à Fatima, en Portugal, ça a quand même marqué les esprits. Et le clan anticlérical, même s'il a perdu, puisque immédiatement après Fatima, le 8 décembre 1918, eh bien, la République anticléricale tombe. Et c'est un régime plus favorable à l'Église qui se met en place. Donc évidemment, tous les Portugais diront « c'est la Sainte Vierge qui a foutu à la porte les anticléricaux ». Bon, c'est très compliqué, vous voyez, le religieux et le politique qui se mêlent, pour nous, ça nous dérange un peu quand même que la Sainte Vierge... Bon, enfin bref, voilà, ça c'est typique de Fatima. Mais les anticléricaux ne désarment pas. Et entre-temps, on a construit une petite chapelle autour du chêne vert, où la Sainte Vierge était apparue, et dans la nuit du 5 au 6 mars 1922, 4 charges explosives vont volatiliser la chapelle. Et on s'aperçoit qu'il y a une 5e charge explosive qui avait été mise sur le chêne vert lui-même et qui n'a pas explosé. Alors là aussi, miracle, comment se fait-il que précisément le chêne vert ait été épargné ? Bon. Mais enfin, évidemment, cet événement va faire du bruit, au sens propre comme au sens figuré, et ça va relancer un peu l'intérêt de l'Église pour Fatima. Parce qu'il faut dire que la position de l'Église, je vous ai dit, le curé est très réservé, l'évêque, il n'est même pas là. Le patriarche de Lisbonne, il est en exil au moment des apparitions. Quand il revient... Il a d'autres chats à fouetter, il faut tout rebâtir. Bon. L'évêque de Leiria, le diocèse de Leiria, va être rétabli en 1918, et c'est l'évêché dont dépend Fatima. Il ne va s'intéresser que mollement à Fatima, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, mais il va quand même nommer une commission d'enquête. Cette commission d'enquête va peu à peu établir les événements, et ce n'est qu'en 1930, donc quand même 13 ans, après la dernière apparition de Notre-Dame, le 13 octobre 1930, que l'évêque de Leiria, à qui il appartient d'en juger, eh bien, déclarera ceci, je vous ai mis le texte, « Nous décidons de déclarer dignes de foi les visions des petits bergers à la Cova d'Airia, paroisse de Fatima, dépendant de ce diocèse, qui ont eu lieu du 13 mai au 13 octobre 1917, et de permettre officiellement le culte de Notre-Dame de Fatima. » Voilà la déclaration de reconnaissance des apparitions de Fatima 1, c'est-à-dire de ce que je viens de vous décrire. Les 6 apparitions de la Vierge, les 13 de chaque mois et le 19 du mois d'août. Point. Vous voyez que la déclaration est quand même d'une concision calculée, d'une retenue qui frappe. Vous avez peut-être en tête les déclarations comparables de Mgr Laurence pour Lourdes, où il dit « La Sainte Vierge Immaculée, notre Mère, est réellement apparue à Sainte Bernadette dans la grotte de Massabielle. » Je ne sais pas ce qu'ils disent là. Il dit, les visions sont dignes de foi. Un peu différent. Hein. Donc, c'est la version minimale quand même. C'est la version minimale. C'est intéressant de le souligner. À Lourdes, à La Salette, à Pontmain, les évêques sont beaucoup plus enthousiastes, beaucoup plus affirmatifs. Là, c'est très, très discret. Alors, voilà. Fatima 1, nous savons ce que c'est. Mais va commencer. Fatima 2. Vous voulez savoir ce que c'est que Fatima 2 ? Ben, je vais vous le dire. Alors, il se trouve que le 12 septembre 1935, on veut transporter le corps de la petite Jacinta, qui est enterrée à Villa de Urem, jusqu'au cimetière de Fatima, pour qu'elle retourne chez elle, en quelque sorte. Or, comme on sort le corps de Jacinta, on s'aperçoit qu'il a été conservé absolument intact, que son visage est frais comme un gardon. En 1935, nous sommes déjà 15 ans après la mort de Jacinta. Son corps n'a pas été altéré. Déjà, ce phénomène interroge, et donc l'évêque de Leiria dit à Lucie, écrit à Lucie en disant « Il y a eu ce phénomène étonnant, dis-moi donc ce que tu sais sur la petite Jacinta. » Et Lucie, par obéissance, se met à écrire donc ce qu'on appelle ses mémoires. Il y aura 6 mémoires en tout de Sœur Lucie. Vous en avez 4 dans cette édition-là, mémoire de Sœur Lucie. Et le premier de ces mémoires, c'est donc les souvenirs de Lucie sur sa petite cousine Jacinta. Et à cette occasion de ces mémoires, elle va révéler un certain nombre de choses qu'on ignorait jusqu'alors. Donc à partir de 1935, surtout dans les années 40, 41 et 44, on va apprendre des choses qu'on ne savait pas jusque-là. Que va révéler Lucie ? Deux choses principalement. Les apparitions de Notre-Dame ont été précédées par des apparitions angéliques. Premier point. Deuxième point, le 13 juillet 1917, Notre-Dame nous a confié un secret dont je vais vous révéler les deux premières parties. Très complexe. Bon. D'abord, premier point, donc, les apparitions de l'ange. Lucie révèle que les apparitions de notre âme n'ont pas été sans précédent, mais que dès 1915, elle-même, Lucie, mais aussi Maria Rosa Mathias, Teresa Mathias et Maria Justino, donc des petites amies de son âge, ont vu, en 1915, une espèce de nuage blanc en forme humaine. Ça ressemblait à un homme couvert d'un drap blanc, dira-t-elle. Bon, apparition mystérieuse, elles en parlent autour d'elles, on se moque d'elles bien sûr, bon, on ne sait pas de quoi elles retournent, mais ce qui est intéressant, c'est que les trois autres, vous voyez, ça fait trois autres témoins d'une apparition dont on ne sait pas très bien de qui elle est, cette apparition, mais voilà, il y a trois autres témoins qui diront oui, c'est vrai, on se souvient très bien qu'en 1915 nous avons eu ces formes humaines, blanches, plus blanches que neige, qui nous sont apparues à plusieurs reprises. En 1916, au printemps, cette fois Lucie, Francisco et Jacinta sont en train de jouer, comme d'habitude, dans un endroit qu'on appelle le Cabesso, qui est une petite grotte, pas très loin de chez eux, et voici qu'un ange, cette fois, pleinement identifié, ressemblant à un jeune homme de 14-15 ans, lumineux comme l'éclair, évidemment, leur apparaît et leur parle, surtout. Que leur dit-il ? Il leur dit « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. » Et l'ange de la paix va apprendre une prière que tous les Portugais, mais pas uniquement les Portugais, disent chaque jour, à savoir « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Et l'ange va leur demander de répéter cela. Il va lui-même le répéter par trois fois en se prosternant jusqu'à terre. Et il va lui-même répéter cela trois fois et demander aux petits-enfants de le répéter, qui le répéteront tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de fait, les parents témoigneront, bien avant les mémoires de Sainte Lucie, que leurs enfants disaient des choses, des prières bizarres, et on ne savait pas qui leur avait appris. Ils diront cette prière-là, entre autres. Et l'ange leur dit, « Priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » Bon. Les enfants étaient pleinement heureux quand ils ont vu cet ange, mais après, ils étaient abattus physiquement, ils étaient exténués. Ils étaient comme... c'était le poids du ciel leur était tombé sur les épaules. Et ils n'en parlent pas autour d'eux. Ils décident de ne pas en parler, de cette apparition de l'ange. L'été suivant, donc après le printemps de 1916, apparition de l'ange de la paix, été 2016, apparition de l'ange du Portugal. Cette fois, non plus au Cabeço, mais tout près de chez eux, au puits de la maison de Lucie. Lucie est à la maison, il y a un puits juste à côté, ils sont en train de jouer, là, et l'ange apparaît en disant « Mais arrêtez donc de jouer, je vous ai demandé de prier !» Déjà, on trouve ça un peu dur et saumâtre pour des enfants de 10, mais ils n'ont même pas 10 ans à l'époque, ils ont 9, 7 et 6 ans. « Vous devez prier, leur dit-il. Que faites-vous? Priez, priez donc, priez beaucoup. Les très saints cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en réparation pour les pécheurs. Je suis l'ange du Portugal. » Alors là aussi, ça ouvre tout un pan théologique. Qu'est-ce que c'est que les anges gardiens? On savait bien qu'on avait chacun un ange gardien, mais apparemment les nations aussi ont un ange gardien. C'est un pan de la théologie qui ne vous est peut-être pas familier. Pourtant, c'est dans l'Écriture, les anges des nations. Donc chaque nation a un ange gardien, l'ange du Portugal, il y a l'ange de la France, j'imagine, on aurait peut-être intérêt à le prier, bonsoir, en ce moment, parce que, oui, il me semble qu'on pourrait prier l'ange de la France, ce ne serait pas inopportun. Donc les anges des nations, je suis l'ange du Portugal, voilà. Donc très, très mystérieux. Alors attention, la deuxième apparition est déjà mystérieuse, mais alors la troisième, n'en parlons pas. Troisième apparition, cette fois retour au Cabeço, là où était apparu l'ange de la paix, à l'automne 1916. Un ange apparaît, mais alors encore plus mystérieux que les précédents, puisque lui, il porte dans sa main gauche un calice avec une hostie au-dessus. Et voici que l'ange de la communion, si vous voulez, il y a eu l'ange de la paix, printemps 1916, l'ange du Portugal, été 1916, l'ange de la communion, automne 1916, l'ange de la communion va donner la communion, l'hostie, à Lucie. Ça va bien parce que Lucie a déjà fait sa première communion, dès l'âge de 6 ans d'ailleurs. En 1913, elle a fait sa première communion. Rappelez-vous que le décret du pape Pie X ouvrant la communion aux enfants en bas âge, à partir de 7 ans, c'est en 1910. Donc, une des premières bénéficiaires de ce décret pontifical, ça a été la petite Lucie, qui a pu communier dès l'âge de 6 ans. Alors que Francisco et Jacinta n'ont pas fait leur première communion encore. Alors, Francisco et Jacinta, eux, ils vont recevoir des gouttes du précieux sang que l'ange va leur donner. Ils vont boire au calice. Moi, je serais le curé de Fatima, je serais furieux contre l'ange, qu'on fasse faire à des enfants qui dépendent de ma paroisse leur première communion sans m'avertir. Bon. Alors les enfants, de fait, Francisco et Jacinta ne considéreront pas qu'ils ont fait leur première communion. Et par la suite, ils ne communieront pas. C'est assez intéressant. Enfin bref. Bon, tout ça est très compliqué. Ce qui est curieux, c'est que ces apparitions de l'ange, très très mystérieuses, n'annoncent pas. À aucun moment, l'ange dit « Préparez-vous, la Sainte Vierge va venir » ou je ne sais pas quoi. Donc ça n'annonce pas, apparemment, les apparitions. Mais elles ont eu lieu en 1916, c'est-à-dire à peu près un an avant les apparitions de Notre-Dame. Bon. Première révélation donc, de Sœur Lucie dans ses mémoires, les apparitions de Notre-Dame ont été préparées par des apparitions angéliques. Deuxième révélation de Sœur Lucie dans ses mémoires, le 13 juillet Notre-Dame nous a fait part d'un secret. Alors, ce fameux secret de Fatima. Le 13 juillet 1917, lors d'une des apparitions à la Cova d'Airia, donc, eh bien, la Vierge Marie, tout d'un coup, a pris le regard sombre, s'est attristée, et puis a entrouvert les mains, et la terre s'est entrouverte devant elle, et elle a laissé entrevoir aux enfants, épouvantés, effrayés, vous l'imaginez, le gouffre de l'enfer. Un océan de feu, dit sœur Lucie, où nous voyons des démons et des âmes qui brûlaient avec des cris épouvantables. Ils sont terrifiés. D'ailleurs, les témoins disent que il y a eu les enfants, et Lucie en particulier, a poussé un cri de frayeur. Les témoins ne savaient pas pourquoi, parce qu'ils ne voyaient rien, eux, évidemment. Mais les enfants ont vu l'enfer. Bon. C'est la première partie du secret, la vision de l'enfer. Rien que ça, déjà, ça nous calme. Bon. La deuxième partie du secret, eh bien, c'est ce que va dire Notre-Dame au petit voyant. « Vous avez vu l'enfer, dit la Vierge Marie, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais dire, beaucoup d'âmes seront sauvées. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre guerre va commencer qui sera encore pire que la première sous le pontificat de Pie XI. » Quand vous verrez une nuit illuminée, ce sera le signe que cette autre guerre, ce châtiment, va s'abattre sur vous. Pour l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on satisfait à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Au Portugal, on conservera toujours le dogme de la foi. Voilà la deuxième partie du secret qui a été révélée donc en 1941. Vous voyez que cette deuxième partie du secret annonce donc la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, qui sera précédée par une nuit lumineuse. Le 25 janvier 1938, depuis Gibraltar jusqu'à la Sicile, en passant par la Suisse, une grande aurore boréale a été vue. Et on a considéré, et sœur Lucie la première, que c'était le signe annonciateur de cette deuxième guerre mondiale qui a bien commencé sous le pontificat de Pie XI, parce que si même nous mettons en 1939 sous le pontificat de Pie XII le commencement de la seconde guerre mondiale, pour des Portugais, il est évident que la seconde guerre mondiale a commencé en Espagne par la guerre civile espagnole et en Autriche par l'Anschluss en 1938. Donc, tout cela est évidemment très mystérieux. Mais ça n'est rien à côté du troisième, de la troisième partie du secret. Cette troisième partie du secret, sœur Lucie dit qu'il ne faut pas la révéler avant 1960. Alors elle l'a écrite, elle l'a mis dans une enveloppe cachetée, elle l'a envoyée à l'évêque de Leiria, car Cussac a essayé de regarder à travers, mais il n'a pas vu grand-chose, évidemment. Il l'a mis dans une autre enveloppe qu'il a cachetée, il l'a mis au coffre. Voilà. Et avant 1960, on ne pouvait pas l'ouvrir. Et puis en 1957, le pape Pie XII va dire « Envoyez-moi l'enveloppe ». Donc on va envoyer l'enveloppe qui sera désormais au Vatican et nous verrons tout à l'heure ce qu'est devenu cette enveloppe. Mais pour l'instant, j'en viens à la deuxième partie simplement de mon discours qui concerne le message. J'irai vite, mais c'est évidemment la partie la plus importante. On peut dire rapidement quel message. D'abord un message de prière, le chapelet, le chapelet, le chapelet. Je vous avoue que depuis, je priais déjà mon chapelet, mais depuis mon récent pèlerinage à Fatima et depuis que j'ai plus étudié encore les apparitions de Fatima, je ne quitte plus mon chapelet. Ça a été le cas des petits voyants. Ils ne quittaient pas leur chapelet. Oui, voilà. Avec la prière, il y a le ciel. Le ciel. Il me semble que vraiment, ce que peut nous apprendre les apparitions de Fatima, c'est une certaine familiarité avec le ciel. Je voudrais vous mentionner le dialogue qui a lieu le 13 mai 1917 lors de la première apparition de Notre-Dame. Le dialogue s'engage entre Marie et Lucie. Lucie demande très légitimement « D'où êtes-vous, madame ?» Et la Sainte Vierge répond « Je suis du ciel. » Elle ne dit pas « Je viens du ciel, mais je suis du ciel. » Notez cette nuance. Et demande immédiate de Lucie « Et moi, est-ce que j'irai au ciel aussi ?»« Oui, tu iras. » Ouf. Et Jacinta, est-ce qu'elle ira au ciel ? Oui, elle ira. Ouf. Et François ? Oui, il ira. Mais il faudra qu'il dise beaucoup de chapelets. Alors je me suis dit, si le petit Francesco, tout pieux, tout bon de cœur, tout aimable, tout gentil qu'il est, tout poète, ami des animaux comme son saint patron, si lui, il faut pour aller au ciel qu'il dise beaucoup de chapelets, ben moi je peux m'y mettre tout de suite, hein. Et le petit Francesco a dit « Des chapelets, moi j'en dirai autant que vous voulez. » Et il n'a pas arrêté une mitraillette de chapelets pour des enfants de cet âge. Très étonnant. Très, très étonnant. Ouais. Alors le ciel. Évidemment, ce sont des petits pâtres, ils sont habitués à regarder le ciel. D'ailleurs, Francesco disait « Les étoiles, c'est les lampes des anges. Et la lune, c'est la lampe de Notre-Dame. » Donc vous voyez, une espèce de familiarité avec le ciel. On ira au ciel. Je me suis demandé ce qu'un petit enfant de nos catéchismes paroissiaux aurait demandé à la Vierge Marie s'il l'avait vue. La première chose qu'il aurait demandé, c'est peut-être « Est-ce que tu peux guérir ma grand-mère ?» ou « Est-ce que tu peux arrêter la guerre en Syrie ?» ou bien « Est-ce que tu peux faire que mes parents s'entendent bien ?» Toutes choses très très valables, que je ne critique pas du tout. Mais ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas ça que demande Lucie. Première chose qu'elle demande, « Est-ce que j'irai au ciel ?» Est-ce qu'un petit enfant de nos catéchismes est même conscient qu'un jour il ira au ciel ? A-t-il même le désir d'aller un jour au ciel ? Je n'en suis pas sûr, mais je le dis pour les enfants, je le dis pour nous-mêmes. Est-ce que notre conversation est dans le ciel, comme dit saint Paul ? Est-ce que notre grand désir, c'est le ciel ? Voilà. J'aime bien quand on dit que la vie chrétienne devrait être comme un paysage hollandais où il y a beaucoup plus de ciel que de terre. Donc une espèce de familiarité avec le ciel. Le monde angélique, nous est peu coutumier, les apparitions des anges qui précèdent les apparitions de Notre-Dame, c'est quand même quelque chose, il y a une espèce de familiarité avec le ciel. Une espèce de nostalgie impatiente du ciel qui est très frappante. Le premier réflexe des enfants, c'est de penser au ciel. Et alors ça va être encore plus vrai, évidemment, après les apparitions ou même pendant les apparitions. Je vous ai dit tout à l'heure, le petit Francisco, quand on l'emmène pour l'ébouillanter, il dit « Tant mieux, j'irai plus vite au ciel. Oh. » Et puis après, on lui dit « Alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard, maintenant que tu as vu les Saintes Vierges ? Tu voudrais être prêtre ?» Il dit « Oui, prêtre, c'est pas mal. Enfin, je préfère aller au ciel. Hein » Il a bien raison. Et puis après, on lui dit, la Sainte Vierge a dit que tu apprends à lire. Il dit, c'est pas la peine, puisque de toute façon, je veux très vite aller au ciel. Elle l'a dit aussi. Donc, du coup, il va pas apprendre à lire. Non. Voilà. On lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire alors ? Je ne veux rien. Je veux mourir et aller au ciel. Point. Étonnant, hein ? Étonnant. Voilà. Et Jacinta est exactement pareil. Hein ? Elle ne désire qu'une chose, c'est d'aller au ciel. Bon, premier point, le ciel. On va en pèlerinage à Fatima, non pas pour orienter nos pas vers Fatima, mais pour orienter nos cœurs vers le ciel. Ça, c'est très important. Je crois qu'il faut réorienter notre existence. Nous, on est empêtrés dans les machins de ce monde. Ça n'a aucune importance. En tout cas, tant qu'on n'a pas mis le cap sur le ciel, tout le reste est dérisoire. Et si nous mettons le cap sur le ciel, alors nous saurons ce qu'il convient de faire sur cette terre. Voilà, mais je ne suis pas sûr que ce soit très prégnant dans notre christianisme français contemporain, cette vision du ciel. On est très investi, on a investi nos belles énergies dans l'horizontalité et dans la justice dans ce monde. Et c'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas œuvrer pour la justice dans ce monde. Mais par contre, la partie verticale, elle manque un peu. Or, il me semble qu'on ne peut assurer vraiment la partie horizontale comme les arbres. Ils ne peuvent vraiment croître et allonger leurs racines dans le sol, que s'ils pointent leur cime vers la lumière où ils prennent et captent toutes leurs énergies. Voilà. Deuxième thème, la réparation. La réparation. Ça, c'est ce qu'il y a de plus étonnant pour nous. Tout le discours de la Vierge Marie et des anges avant c'est la réparation, la réparation, la réparation. Offrez des sacrifices. De toutes sortes de choses, offrez des sacrifices à Dieu en réparation pour le cœur de Jésus et le cœur de Marie qui sont offensés par les pécheurs. Et alors, vous le savez, les petits voyants vont se livrer à des austérités qui nous semblent absolument effrayantes. Ils ont un petit pique-nique qu'on leur donne quand ils vont garder les moutons. Eh bien, ils donnent le pique-nique aux moutons et ils mangent les glands à la place. Et ils sont tout contents parce qu'ils disent « Comme ça, on va sauver des pécheurs !» Il fait une chaleur épouvantable au Portugal au mois d'août. Ils ne boivent pas de toute la journée. On leur tend un verre d'eau, ils disent « Non, comme ça on sauvera plus de pêcheurs. » La petite Jacinta, elle voit un bouquet d'orties là, elle se précipite dedans et elle crie ivre de douleur et de joie « C'est pour les pêcheurs, c'est pour les pêcheurs !» Barge. On se dit, après Freud, c'est pas possible. Et pourtant, des enfants de 7 ans, hein, 8 ans, la petite Jacinta. Bon, voilà. De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en réparation pour les péchés. Alors, et Jacinta, elle a, la première question qu'elle pose quand elle revoit sa cousine, Lucie, elle lui dit, qu'est-ce que tu as trouvé à faire comme sacrifice ? Je ne suis pas sûr que spontanément, quand vos enfants rentrent de classe, vous leur dites « Alors, qu'est-ce que tu as fait comme sacrifice aujourd'hui ?» Non, peut-être pas. « Tu as sauvé combien de pêcheurs aujourd'hui ?» Étonnant. Alors, sa maman lui propose, par exemple, alors qu'elle est déjà bien mal en point, un verre de lait ou une belle grappe de raisin. Elle a envie de la belle grappe de raisin. Elle prend le verre de lait, en disant « Comme ça, des pêcheurs seront sauvés. » Cette façon d'une vie donnée, d'une vie offerte, où toutes les souffrances sont non seulement accueillies, mais même recherchées, d'une façon qu'on pourrait interroger quand même. Hein. On cherche toutes sortes de souffrances qu'on pourrait offrir au Seigneur afin de sauver les pécheurs et de réparer. Et surtout, alors vous avez il y a deux accents, je n'ai pas le temps de développer ça, mais je vous ai mis le petit schéma de la réparation pour que vous compreniez mieux. Il y a deux accents dans la réparation. Il y a ce qui consiste à réparer l'honneur divin lésé, à réparer le cœur du pécheur perverti par le péché, mais il y a aussi l'accent de la consolation, qui est assez propre à Francisco. Francisco, il passait des heures devant le tabernacle. On se dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais je suis devant Jésus caché parce que je veux que Jésus soit content. Et quand, dans son agonie, Lucie vient lui dire « Ah ben c'est bien, tu seras bientôt au ciel, donc tu vas pouvoir, n'oublie pas, quand tu seras là-haut, de prier pour nous, puis pour nos parents, puis pour le Saint-Père. » Francisco dit ça, demande-le plutôt à Jacinta. Moi, je voudrais surtout consoler Jésus. Il n'a qu'une idée, c'est d'être devant Jésus pour le consoler. Je voudrais que Jésus soit content, dit-il. Très étonnant. Cette idée de la consolation du Christ. Très belle idée. Je ne sais pas combien d'heures vous passez devant le tabernacle qui est ici pour consoler Jésus. Pose la question. Et je me la pose aussi. Voilà. Consoler Jésus. C'est magnifique tout ça. Mais ça nous interroge beaucoup et ça nous, il faut un petit déménagement culturel pour essayer de comprendre tout ça. Il faut bien le reconnaître. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais voilà. Troisième thème, le cœur immaculé. Le cœur immaculé de Marie. Je veux établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé, dit la Vierge Marie. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Les très saints cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Voilà tout ce que les enfants ont entendu. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Voilà. Et puis, dans le fameux secret, la deuxième partie du secret, il y a Dieu, la consécration au cœur immaculé de Marie, et il y a Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé, et cette phrase magnifique, qui va avoir un écho si considérable chez Jean-Paul II, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Voilà. Alors j'en viens à Fatima et les papes, parce que je vois que le temps tourne. Fatima et les papes, vous en savez un petit peu quelque chose. Dans la deuxième partie du secret, la Vierge disait « Je viendrai demander la consécration du monde et de la Russie à mon cœur immaculé. » Donc voilà ce qu'elle dit le 13 juillet. « Je viendrai demander. » Alors quand est-ce qu'elle va venir? Eh bien, elle est venue le 13 juin 1929, alors que Sœur Lucie est déjà religieuse chez les Sœurs de Sainte Dorothée à Tuy, en Espagne. Eh bien, une nouvelle apparition de Notre-Dame qui dit cette fois, c'est le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Désormais, Sœur Lucie va harceler tous les papes pour obtenir cette consécration du monde et de la Russie en union avec tous les évêques au cœur immaculé de Marie. Elle va avoir pas beaucoup de succès auprès de Pie XI, mais beaucoup auprès de Pie XII. Alors, pourquoi Pie XII est sensible particulièrement à Fatima? Parce qu'il a été ordonné évêque le 13 mai 1917. Évidemment, ça fait tilt dans sa tête, et pour lui, Fatima, c'est quelque chose. Et puis, Pie XII est un pape marial, ils le sont tous, hein, mais particulièrement, c'est le pape, bien sûr, du dogme de l'Assomption. Donc, il suit à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. C'est donc une vénération, bien sûr, pour Pie XII, qui a donc déclaré en 1950 le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Or, il se trouve que quelques jours avant cette déclaration ô combien solennelle du pape, le 30 octobre et le 31 octobre 1950, au terme de l'année sainte 1950, le pape Pie XII, pensant à ce dogme magnifique qu'il va proclamer dans quelques jours, se promène dans les jardins du Vatican, et que voit-il? Le soleil qui se met à danser. Et à plusieurs reprises, le 30 octobre, le 31 octobre, le pape va avoir une vision du signe cosmique qui est celui de Fatima. Pour lui, évidemment, c'est un signe très clair de la connexion qu'il y a entre Fatima, lui-même, le dogme qu'il va proclamer, et il va donc consacrer le monde et la Russie au cœur immaculé de Marie à plusieurs reprises en 1942, le 31 octobre, le 8 décembre et aussi le 7 juillet 1952, donc trois fois. Mais Lucie dira « Non, ça ne va pas ». Ah bah zut alors, pourtant il y a mis le paquet, Pie XII. Hein. On dit non, ça ne va pas parce que la Sainte Vierge a dit qu'il fallait que tous les évêques le fassent en même temps que le Saint-Père. Or là, c'est le pape tout seul. Ah, bon. Bon, je passe sur tous les détails. Pie XII, donc, n'a pas, semble-t-il, obtempéré. Paul VI va venir en pèlerinage à Fatima le 13 mai 1967 pour les 50 ans de l'apparition. Donc, il va demander explicitement que Sœur Lucie sorte de son Carmel où elle est entrée entre-temps en 1948. Et donc, nous avons la photo de Paul VI et de Sœur Lucie côte à côte. Paul VI va donner la communion à Sœur Lucie de sa propre main. Et le 13 mai 1967, il va consacrer le monde entier au cœur immaculé de Marie. Mais il n'y a pas les autres évêques, et ils nomment pas la Russie. Alors, ils nomment pas la Russie parce que c'est difficile de nommer un pays. Il y a des raisons diplomatiques. Et qu'est-ce que ça veut dire de nommer un pays plutôt qu'un autre? Et pourquoi la Russie? Comment se fait-il que la Vierge Marie n'ait pas eu un mot sur l'Allemagne et le nazisme, et n'ait parlé que du communisme et des soviétiques? On se pose ces questions. On a beaucoup dit, c'est une apparition de droite. Absurde, évidemment. Bon. Mais ça interroge quand même. Pourquoi elle n'a pas dit consacrer l'Allemagne? Il semble que ça aurait été plus efficient. Elle a dit consacrer la Russie. Alors, voilà. Donc, Paul VI, ça ne marche pas non plus. Bon, pourtant, il est venu, il est quand même venu, le bienheureux Paul VI, à Fatima, en pèlerin. On arrive à Jean-Paul II, parce qu'il faut passer vite, ça nous est beaucoup plus connu, évidemment. Jean-Paul II ne connaît pas, ou très peu, Fatima, hein, quand il devient pape. Et puis voilà que le 13 mai 1981, nous en souvenons, pour les plus anciens d'entre nous, le 13 mai 1981, le pape se fait tirer dessus par l'IAK, et évidemment, ça fait tilt. Il est persuadé que c'est la Sainte Vierge qui l'a protégé, une main a tiré la balle, une autre main a guidé la balle, et cette autre main, c'est la main mariale de Notre-Dame de Fatima. Il va dès lors demander, bien sûr, à ce qu'on lui apporte la fameuse enveloppe qui, depuis 1957, est dans les archives du Saint-Office, hein, et que personne n'a ouvert, ils l'ont ouvert, mais ils ne l'ont pas diffusé. Pie XII ne l'a pas diffusé, Paul VI ne l'a pas diffusé, enfin Jean XXIII d'abord ne l'a pas diffusé, Paul VI ne l'a pas diffusé, personne ne l'a diffusé, bon, de sorte qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette troisième partie du secret? Oh, disent les gens, je sais ce que c'est. C'est la Sainte Vierge qui annonce les méfaits du Concile Vatican II. Et toute une série de gens commencent à comploter comme ça des rumeurs en disant « Si les papes ne veulent pas divulguer la troisième partie du secret, c'est certainement que c'est compromettant pour eux et que la Sainte Vierge dénonce l'apostasie, etc. » Enfin, vous voyez les rumeurs les plus fantaisistes qui peuvent courir. Bon. Donc, pas de dévoilement. Jean-Paul II, qui vient d'être rescapé de son attentat, se précipite dès l'année suivante à Fatima en pèlerin. Le 13 mai 1982, il consacre le monde au cœur immaculé de Marie. Le 16 octobre 1983, il recommence. Et le 25 mars 1984, cette fois, il met le paquet. C'est l'année mariale, l'année sainte mariale décidée par Jean-Paul II. Il convoque tous les évêques, il prévient tous les évêques de s'associer à lui dans sa consécration du cœur immaculé. Au cœur immaculé de Marie, du monde entier et de la Russie, mais qu'il ne nomme pas. Il la nomme in petto, en douce, comme ça. Il ne peut pas. Hein. On est encore en guerre froide, hein, 1984. C'est pas possible. Bon. Alors, est-ce que ça vaut, est-ce que ça vaut pas? Lucie, en 1989, dira « C'est bon, ça vaut. » Donc, là, elle considérera que les demandes de la Sainte Vierge ont été satisfaites. C'est le pape, en union avec les évêques, en nommant au moins dans son cœur, dans son fort interne, la Russie et le monde entier consacré au cœur immaculé. Et de fait, 25 mars 1984, consécration. 1985, Gorbatchev qui arrive au pouvoir. 1989, le mur de Berlin qui s'effondre de manière incroyable, inenvisageable, imprévisible absolument. Et donc, faut-il dire qu'il y a un lien entre cette consécration et puis, non pas la conversion de la Russie, parce qu'il faut sans doute s'entendre sur qu'est-ce que c'est la conversion de la Russie, mais en tout cas, la chute de l'Empire soviétique. Pour le pape Jean-Paul II, il ne fait aucun doute qu'il y a un lien très clair entre cette consécration, Notre-Dame de Fatima, et la chute de l'Empire soviétique. Alors, il faut dire que la Vierge Marie, dans la deuxième partie de son secret, dit « Mon cœur immaculé triomphera ». Or, Jean-Paul II a été toute son enfance bercé en Pologne par cette phrase d'un de ses prédécesseurs, le cardinal Londe, qui disait « À la fin, si elle vient, la victoire viendra par Marie ». Et ces deux phrases sont entrées en quelque sorte en résonance. Et Jean-Paul II, alors j'ai écrit il y a fort longtemps un petit ouvrage sur Marie au cœur de l'œuvre de Jean-Paul II. J'ai étudié donc particulièrement ça. Et pour Jean-Paul II, ça ne fait pas de doute. La victoire viendra par Marie. Et c'est la Vierge Marie qui a fait tomber l'Empire soviétique. Il en est absolument persuadé. Il redit à de très nombreuses reprises, la victoire est venue par Marie. Voilà. Donc ces phénomènes sont tout à fait étonnants. J'en viens, et il sera juste 10 heures, on arrête, je vous promets, pile. J'en viens à la fin, qui est vraiment toute récente, puisque le pape Jean-Paul II décide de publier enfin cette troisième partie du secret. Et ce sera en l'an 2000, le 26 juin 2000, alors qu'il vient de béatifier les petits Francisco et Jacinta à Fatima, le 13 mai de l'an 2000, il annonce que la troisième partie du secret va être enfin divulguée. Ce sera le cas, non pas par Jean-Paul II lui-même, mais par le cardinal Ratzinger, le 26 juin 2000. Cette troisième partie du secret, vous savez ce que c'est. C'est d'abord la vision d'un ange de feu avec une épée de feu qui crie pénitence, pénitence, pénitence. Jusque-là, ça nous va très bien. C'est exactement le message de la Vierge à Lourdes. Donc, on n'est pas dérouté. Et c'est le message de l'Évangile. C'est le premier mot de Jésus dans l'Évangile. Pénitence. Repentez-vous ou convertissez-vous. Donc, jusque-là, ça va très bien. Ensuite, eh bien, c'est la vision d'une ville en ruine, en un état de désastre absolument calamiteux, avec un évêque en blanc qui parcourt ces ruines et puis qui arrive sur une colline où il y a une grande croix et qui, là, se fait flinguer par des soldats avec des flèches et des balles et qui est assassiné. Donc. Et puis d'autres évêques, prêtres, laïcs sont assassinés. Voilà. Donc ça, c'est la vision de ce troisième parti du secret. L'interprétation qu'en donne le cardinal Ratzinger, c'est de dire, eh bien, cette vision avait trait aux innombrables martyrs du XXe siècle. Et effectivement, le XXe siècle fut le grand siècle des martyrs chrétiens. Donc, ce qu'a entrevu Lucie, c'est tous ces martyrs chrétiens et l'attentat du pape, puisque pour Jean-Paul II, ça ne fait pas de doute que cet évêque en blanc sur lequel on tire, c'est lui. Donc, le cardinal Ratzinger, dans son interprétation, dit « Les visions de Fatima et le secret de Fatima concernent des événements qui sont désormais passés. » Donc, inutile d'aller spéculer sur ce que ça peut révéler encore pour l'avenir, c'est terminé. Donc, normalement, c'est fini. Mais évidemment, il ne manque pas de gens pour aller dire que, mais non, en fait, parce que vous voyez bien, l'homme en blanc, on dit qu'il est tué. Or, Jean-Paul II, précisément, n'a pas été tué. On dit qu'il y aura d'autres évêques, qu'il y aura une évêque en ruine, donc ça peut concerner que des événements encore à venir. Bon, je vous laisse libre de vos interprétations. En tout cas, sachez que l'Église a publié le secret, qu'elle considère que maintenant, tout ce qui a été révélé appartient aux événements passés, ce qui demeure, bien sûr, pour toutes les générations, c'est le message de pénitence, 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 et l'appel à la prière. Voilà. Alors, je m'arrête vraiment là, parce que je ne veux pas parler de toutes les rumeurs qui courent sur Sœur Lucie, qui n'est pas vraiment Sœur Lucie, sur le vrai Paul VI qui a remplacé le faux Paul VI, sur... Voilà. Vous avez une espèce de surenchère invraisemblable dans un certain courant de l'Église. Il faut mieux s'en tenir, me semble-t-il, d'abord à Fatima I, aux petits-enfants, aux témoignages vraiment irréfutables et merveilleux de simplicité et d'ingénuité que donnent ceux qu'on peut appeler désormais Saint Francisco et Sainte Jacinta, puisqu'ils ont été canonisés dimanche dernier par le pape François, qui a révélé dans l'avion au retour, je vous ai mis le texte, que... c'est une journaliste qui lui a posé la question. Il dit, mais 13 mai 1917, ça vous rappelle rien ? 13 mai, le 13 mai, attendez, qu'est-ce que c'est marqué, je vous l'ai mis, c'est le dernier texte. Le 13 mai, il y a 25 ans, qu'est-ce que vous faisiez ? C'est vrai, c'est le nonce qui m'a annoncé que j'étais évêque. Voilà. Alors il dit, c'est vrai, je n'ai pas pensé, mais je me suis rappelé. Voilà. Avec la façon de parler invraisemblable du pape François, toute simple, il dit, c'est vrai. C'est le 13 mai que j'ai été nommé évêque. Voilà. Je m'arrête là. Je pense que ça suffit. Vous en avez plein. Sinon, vous ne manquez pas de littérature. Voilà. On prie et on va se coucher.
On va s'en tenir à la conclusion du père Guillaume Namantière. Voilà, on va alors conclure comme on le fait habituellement par un petit temps, tout petit temps de salut du Saint-Sacrement. Et puis, de manière plus prolongée, plus habituelle, on retient ce qui a été répété avec insistance par le père Guillaume Namantière pendant sa conférence, mais plus encore par la Vierge Marie aux trois voyants. Voilà, on a bien notre chapelet dans notre poche et puis on l'égrène abondamment. Il y a tellement, tellement d'intentions à confier au Seigneur par sa Sainte Mère, et à commencer par la grande intention de la paix, de la paix dans le monde, dans notre pays, dans nos familles, dans nos cœurs. Donc un très grand merci à toi, Guillaume.